Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Droit Devant, une émission juridique pour mieux comprendre vos droits. Il y a deux semaines, on évoquait le débat autour de la cigarette électronique. Aujourd'hui, on va parler un peu du droit de la consommation. Alors, vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité, une loi a été votée dernièrement. Elle autorise les associations de consommateurs à porter plainte pour défendre leurs droits. Que dit exactement cette loi et que peut-on en penser? On vous propose, comme à chaque émission, une revue de presse, des chroniques et des interviews pour mieux comprendre l'actu juridique. Restez à l'écoute sur Radio Campus Rennes.
Poursuivre en justice une entreprise qui n'a pas respecté les droits du consommateur, les associations en rêvaient, la loi maintenant le permet. Le texte vient d'être voté. Il ne semble pourtant pas faire l'unanimité. Retour sur le processus législatif.
Alors, mercredi 12 et jeudi 13 février, les deux chambres du Parlement ont en effet adopté définitivement le projet de loi sur la consommation. Ce projet donne le droit aux associations de consommateurs d'intenter des actions de groupe. Inspiré du modèle américain, ce type d'action avait déjà fait ses premiers pas en droit français lors de la présentation du projet de loi de Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire de la consommation en Conseil des ministres. Pour lui, l'idée phare est de permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits sans être freinés par une procédure trop lourde. On écoute tout de suite la réaction de Benoît Hamon sur BFM TV.
Vous faites peur aux grands groupes aussi,
ah bon,
avec votre loi sur les class actions, comme on dit, outre-Manche ou outre-Atlantique, qui sont les actions de groupe. Je vois le MEDEF et l'AFEP, les entreprises privées, veulent en exclure les secteurs dits concurrentiels. Ils ont peur que les consommateurs prennent le pouvoir et qu'à tout moment, ils puissent intenter des actions en justice. L'inquiétude est justifiée ou pas?
Je pense non, mais en même temps, il faut rétablir la justice. Quand il y a une entente anticoncurrentielle dans la téléphonie, les entreprises téléphoniques, en tout cas de la téléphonie, les groupes, sont condamnés par l'autorité de la concurrence. Ils payent une amende à qui? À l'État. Pour autant, c'est vous qui avez payé plus cher que le prix de marché. Êtes-vous indemnisé de cette entente anticoncurrentielle? Savez-vous que quand il y a entente anticoncurrentielle, on estime que le prix que vous payez, vous, est 20% supérieur au prix normal qui devrait être celui du marché? Êtes-vous indemnisé du fait que vous avez payé plus cher pendant un an, 20% de plus que le prix du marché? Ça fait beaucoup, hein, 20% de plus pendant un an. Ça fait des rentes économiques colossales. Jamais. Vous n'êtes jamais indemnisé. Ce que l'action de groupe va permettre, à travers la mobilisation des associations de consommateurs, c'est que sans que vous, consommateurs, n'ayez à enclencher une action en justice, vous puissiez être indemnisé. Tous ces préjudices-là que les consommateurs subissent, il est légitime qu'ils soient réparés par l'action de groupe. Alors, je comprends que les grands groupes s'inquiète du fait, ou le MEDEF, que demain...
Le mécanisme se déclenche un peu pour tout et n'importe quoi, éventuellement.
Sauf qu'on a prévu des filtres. Et les filtres, ce sont les associations de consommateurs agréées. Et pourquoi avons-nous voulu mettre en place ces filtres? Parce que, par exemple, aux États-Unis, l'action de groupe déclenchée de manière intempestive ne l'est pas par les associations de consommateurs, mais par certaines entreprises qui, justement, créent des associations de consommateurs pour intenter des actions de groupe contre leurs concurrents. Donc nous avons voulu au contraire mettre un peu de faciliter les conditions dans lesquelles à la fois les consommateurs sont indemnisés d'un préjudice qu'ils subissent, mais aussi éviter effectivement qu'on déclenche pour un rien une action de groupe afin d'atteindre à l'image d'une entreprise ou d'atteindre à sa réputation. Donc je crois que mon dispositif est équilibré. J'ajoute que Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a dit que l'action de groupe dans le domaine de la santé, ce qui est important, parce que là, ça permettrait de réparer les préjudices corporels qui pourraient être liés à l'absorption d'un médicament, par exemple. L'action de groupe dans le domaine de la santé fera l'objet d'une proposition au début de l'année 2014. Donc, on va dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs français.
L'action de groupe est une première en France. Or, comme le souligne le journal L'Express, elle ne doit pas être confondue avec la class action, mesure américaine popularisée par le film Erin Brockovich. Sorti en 2000, le film américain raconte avec humour l'histoire issue de faits réels d'Erin Brockovich, une avocate qui a réussi à mettre à genoux les industriels malhonnêtes à la tête d'une foule de consommateurs lésés. En France, rien de comparable. Pourquoi la version française est-elle différente?
Eh bien, peut-être parce que la loi française ne va pas aussi loin que le modèle américain. Aux États-Unis, la class action permet à tout groupe de personnes de réclamer une réparation pour tout type de dommages. Ces dommages peuvent donc aussi bien concerner le domaine de la santé que l'environnement. À l'inverse, en France, l'action de groupe ne porte que sur la consommation, on l'a vu dans l'interview. Comme le rappelle l'article publié dans l'Express, elle concerne la vente de biens ou la fourniture de services et vise uniquement la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Cela signifie donc que les victimes de prothèses PIP ou du médiator ne peuvent donc pas se regrouper pour faire une action de groupe. tout comme il n'aurait pas été possible d'en faire une à l'époque suite au naufrage de l'Erika. Benoît Hamon a toutefois précisé que le domaine d'action pourrait être étendu après une évaluation d'ici 6 mois. La loi exclut donc des associations de protection de l'environnement ou d'intervention humanitaire. C'est la première limite posée par la loi.
La deuxième différence avec le modèle américain se situe au niveau des personnes pouvant intenter une action en justice. Aux États-Unis, n'importe quel consommateur lésé peut porter directement plainte, tandis qu'en France, il doit d'abord s'adresser à une association de consommateurs. Donc il en existe 17, légalement reconnues en France. Selon les sites Village Justice, ces associations agréées jouent un rôle de filtre pour éviter des actions abusives et trop répétitives des clients.
En parlant de clients et d'abus, la loi a été particulièrement mal accueillie par les avocats qui dénoncent la mise en place d'un monopole en faveur des associations de consommateurs. Selon l'article paru sur Village Justice, Christian Charrière-Bournazel, ancien président du Conseil national des barreaux, dénonce, je cite, « une loi qui heurte l'honneur même de la profession en plaçant l'association au-dessus des avocats censés mieux connaître la justice ».
La loi a été votée, mais il reste au projet de loi à franchir l'étape du Conseil constitutionnel que l'UMP entend saisir et qui aura un mois pour se prononcer.
On va maintenant faire une première pause musicale avec le morceau « Ghost and Creatures » du groupe Telekinesis.
Full of ghosts and creatures within.
Ghosts and Creatures du groupe Telekinesis. Afin d'en savoir un peu plus sur cette fameuse action de groupe, nous avons été interroger une spécialiste, une juriste affiliée travaillant pour la Maison des consommateurs, Madame Bouchra Gorfti, qu'on remercie encore. On lui a tout d'abord demandé de se présenter, de présenter plus globalement son activité de juriste experte en droit de la consommation, puis de nous parler, de nous faire part plus précisément de son ressenti de spécialiste sur cette fameuse action de groupe.
Donc salariée au sein de la Maison de la Consommation et de l'Environnement qui est basée à Rennes. Le siège social est basé à Rennes. La MCE est composée donc de plusieurs associations de consommateurs et d'environnement, donc 11 associations de défense des consommateurs et 8 associations de protection de l'environnement. Et la MCE intervient pour le compte de ces associations. Hein. Donc, lorsque nous exerçons une activité, c'est pour le compte des associations et avec, avant tout, les associations de consommateurs de l'Ille-et-Vilaine et de la région, non pas accessoirement, mais nous avons également une mission régionale qui est de formation des associations de consommateurs.
On s'est un petit peu adapté à l'actualité du coup sur l'accueil de l'action de groupe.
Oui.
En France, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'était une revendication que vous aviez depuis très longtemps. Est-ce que ça a modifié votre activité déjà? Est-ce que ça va avoir un vrai impact sur votre activité?
L'action de groupe, en fait, elle est revendiquée par l'ensemble des associations de consommateurs depuis au moins 30 ans. Mais elle n'a fait l'objet d'une préoccupation, je dirais, politique concrète qu'à partir de 2005, où un des candidats à la présidentielle, en l'occurrence Jacques Chirac, l'avait inscrite sur son programme. Les candidats ultérieurs ont repris également cette même idée et elle n'a véritablement abouti qu'en 2014. Le texte est adopté mais pas encore publié puisque ça fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes dans l'attente de sa publication et également, une fois qu'elle sera adoptée, de la prise d'un certain nombre de décrets indispensables pour pour que cette action de groupe soit effective.
Vous avez déjà eu des réactions de la part des consommateurs ou des associations à ce sujet?
Alors, effectivement, les gens interpellent les associations de consommateurs pour savoir ce qu'il en est. Alors peut-être qu'il faudrait repréciser ce qu'est l'action de groupe, la resituer par rapport à d'autres procédures. En fait, nous sommes dans une société de consommation et parallèlement, nous avons donc des litiges de masse, souvent de faible valeur. Ce qui fait que le consommateur qui souhaiterait la réparation de son préjudice individuel n'a d'autre choix que de trouver un accord amiable avec le professionnel ou, à défaut d'un accord amiable, n'a pas d'autre choix que doit saisir en fait le tribunal. Alors, compte tenu des enjeux souvent de faible valeur et compte tenu de la technicité de comment des procédures devant les tribunaux, le consommateur renonce et ce que l'on constate, nous, associations de consommateurs, c'est que certains professionnels, aux pratiques commerciales douteuses s'enrichissent sur le dos des consommateurs, sachant pertinemment que malgré sa pratique contestable, il pourra tirer un profit sur le dos du consommateur, si je peux m'exprimer ainsi.
D'accord.
Il y avait une certaine impunité pour ces litiges de masse, de faible valeur, et l'action de groupe aujourd'hui permettra via les associations de consommateurs agréées, il y en a 15 en France, pourront donc, pour le compte de ces consommateurs, demander la réparation du préjudice individuel, matériel du consommateur. Alors, c'est très important d'insister sur la notion de préjudice matériel, puisque ça veut dire que on exclut de cette procédure les préjudices d'ordre moral, le préjudice corporel, et donc il y a un certain nombre de préjudices qui sont hors du champ d'application de l'action de groupe. Évidemment, nous, au sein de l'AMCE et porte-parole, si je peux m'exprimer ainsi, des associations de consommateurs, évidemment, elles sont enchantées que le texte ait été adopté, mais il resterait à améliorer compte tenu, là encore, de la technicité de la procédure et de la longueur supposée de commande de la procédure en question.
Quand vous me parliez des préjudices qui étaient exclus du champ de cette action de groupe, c'était, il me semble, tout ce qui était par rapport aux préjudices médicaux, notamment ?
Oui, notamment, effectivement. Alors, même si il y a des promesses de remettre en discussion, de mettre en discussion cet aspect-là, c'est vrai que les enjeux financiers au niveau médical sont très, très importants. Et donc, le gouvernement a préféré laisser cette question de côté pour l'étudier bien à part. Effectivement, il y a le préjudice médical, il y a les préjudices environnementaux également, qui sont hors champ d'application de cette loi. Voilà, donc le préjudice moral est également exclu. Ce qui veut dire que concrètement, si j'ai par exemple un litige avec mon assureur, si on constate qu'un assureur a une pratique un peu contestable dans l'exécution de son contrat, on ne pourra obtenir réparation que du préjudice matériel de ce contrat. Si, par exemple, à tort, il encaissait, pour être simpliste, 5 euros par consommateur à tort, en dépit de la législation ou en dépit du contrat, les consommateurs n'auraient une indemnisation que par rapport à cette somme indue, prélevée de manière indue et illégalement ou contre le contrat, enfin, en l'absence de conformité au contrat. Si le consommateur a d'autres préjudices, eh bien, il faudra, et c'est là où c'est un peu compliqué pour le consommateur, il devra faire à nouveau une procédure seule pour obtenir le complément d'indemnisation. Donc, on trouve ça un peu regrettable, le fait qu'il faille faire deux procédures pour obtenir l'intégralité des autres postes de préjudice.
Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Merci beaucoup. Bonne journée.
Pour rappel, Madame Bouchra Gorsti est juriste auprès de la Maison des consommateurs située à Rennes au 48 du boulevard Magenta. Nouvelle pause musicale maintenant avec le morceau Shegebu du groupe Tiraiwen.
Tilmamin
Nous allons désormais vous parler des autres apports de la loi Hamon sur la consommation, en nous référant ici à un article de Kenzo Tribouillard, publié sur le site L'Expansion, consacré à l'actualité économique.
Alors, comme on l'a déjà évoqué, le Parlement, par des votes successifs du Sénat le mercredi 12 et de l'Assemblée nationale le jeudi 13 février dernier, a adopté définitivement le projet de loi sur la consommation, qui donne notamment le droit aux associations de consommateurs d'intenter, donc on l'a vu, des actions de groupe.
La nouvelle loi introduit aussi dans le code de la consommation la définition même de la notion de consommateur. Dès lors, est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Destinée à, je cite, « améliorer l'information et à renforcer les droits contractuels des consommateurs », elle contient une série de mesures qui auront des implications sur la vie quotidienne, dont voici les principales.
Alors premièrement, la libéralisation du marché de l'optique. Donc la loi offre une plus grande ouverture de la distribution de verres et lentilles, notamment en ligne. Les prescriptions de verres correcteurs devront indiquer la valeur de l'écart pupillaire du patient afin de faciliter leur achat sur Internet. Le prestataire en ligne devra permettre aux patients d'obtenir des informations et des conseils auprès d'un professionnel de santé qualifié en optique. Ces dispositions sont vivement critiquées par les opticiens, mais soutenues par des associations de consommateurs afin de permettre notamment une baisse des prix.
Deuxième mesure phare, l'ajout de tests de grossesse en grande surface est également prévu par la loi Hamon.
Alors on a aussi la résiliation des contrats d'assurance qui est simplifiée. Les conditions de résiliation sont assouplies. Les consommateurs pourront résilier un contrat d'assurance à tout moment à l'issue d'une première année d'engagement et non à la date anniversaire du contrat comme c'est prévu actuellement.
Ensuite, une assurance des prêts immobiliers est désormais renégociable. Les emprunteurs immobiliers pourront ainsi bénéficier d'un délai d'1 an au cours duquel ils pourront renégocier l'assurance de leurs prêts.
Alors, autre mesure prévue par la loi, donc on enchaîne, la lutte contre le surendettement. Donc, cette partie implique la création d'un registre national des crédits à la consommation afin de responsabiliser les prêteurs. Ils ont l'obligation de proposer une offre de crédit amortissable en alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente ou dans le cadre d'une vente à distance à partir d'un seuil de 1000 euros.
Un commerce électronique plus encadré. Le délai de rétractation après un achat en ligne passera de 7 à 14 jours. Une liste rouge des personnes refusant d'être démarchées au téléphone sera aussi constituée. Les entreprises concernées devront croiser avec leur fichier téléphonique pour éviter de les appeler.
Alors, concernant la tarification maintenant des parkings au quart d'heure, les tarifs de ces fameux parkings seront calculés par quart d'heure et non plus par heure, comme c'était le cas avant. La tarification à la minute, votée par les sénateurs, a finalement été écartée.
La loi concerne également les maisons de retraite. Ainsi, au décès d'un résident, il ne sera plus possible de facturer à sa famille l'intégralité du mois en cours une fois que la chambre aura été libérée.
Alors, autre mesure prévue par la loi, on a aussi l'obsolescence programmée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, les fabricants auront l'obligation d'afficher jusqu'à quelle date seront disponibles les pièces détachées, indispensables au produit, et de les fournir afin de lutter contre une durée de vie prédéterminée de ces produits.
Identité géographique protégée. Les IGP, donc, qui n'existaient que pour les produits alimentaires, seront étendus aux produits artisanaux et manufacturés. À titre d'exemple, le fameux couteau Laguiole.
La loi Hamon propose aussi un encadrement renforcé du marché des métaux précieux, avec notamment l'obligation d'un contrat écrit lors de tout achat.
S'agissant de l'alimentation, plus de traçabilité pour le marché de la viande. L'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et tous les produits à base de viande ou contenant de la viande à l'état brut ou transformé. Les modalités seront fixées par décret après que la Commission européenne ait déclaré cette obligation compatible avec le droit de l'Union européenne.
Alors, on en avait entendu parler, l'ajout de la mention du fait maison au restaurant. Vous avez peut-être vous-même déjà eu ce problème. Vous allez dans un restaurant, vous commandez un super dessert fait maison, donc une mousse au chocolat. Il vous coûte 6 euros et manque de peau. En réalité, il vient de Picard ou d'une autre grande surface à côté. On a l'obligation maintenant pour les restaurateurs et les sociétés de vente à emporter d'indiquer qu'un plat proposé est réalisé et vraiment fait maison, c'est-à-dire élaboré sur place à partir de produits brut.
La création de magasins de producteurs. Des agriculteurs pourront aussi créer ensemble un magasin de producteurs afin de commercialiser directement leurs produits sur le marché local.
La répression des fraudes se voit aussi renforcée. Donc les moyens de la direction de la répression des fraudes vont être bien plus forts. Les agents de la répression des fraudes pourront par exemple masquer leur qualité lors des contrôles.
Sanctions pour fraude économique. Les amendes pour fraude économique pourront atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui aura fraudé afin de s'assurer que la sanction lui coûtera plus cher que la fraude ne lui aura apporté. De même, le montant de l'amende pour les personnes physiques sera multiplié par 10, passant de 37 500 à 300 000 euros. Enfin, le juge pourra interdire aux contrevenants toute activité commerciale pendant 5 ans.
Voilà, c'est la fin de cette émission Droit Devant. On vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne journée sur Radio Campus Rennes et on espère vous revoir d'ici 15 jours.